Ok, donc on est dans Perek Mem. On est dans Perek Mem. Basé Yuvan Etev Adetrilo Chibo. Je vais pousser pour vous montrer. Voilà, Basé Yuvan Etev, page Nounhe.
Là. Basé Yuvan Etev.
Basé Yuvan Etev.
Là. C'est vraiment chez vous là.
C'est là, c'est dans le salon ici. Donc là, il y a une introduction importante. Avant de faire le cours d'aujourd'hui, on est obligé de répéter ce qu'on a étudié dans le cours de la semaine dernière.
Ah, oui, les leçons, d'ailleurs.
C'est bon pour
les... Moins de faire un résumé. Quand page...
T'es pas réçu ?
Pas un peu.
Page Nouné. Donc on a expliqué dans le cours précédent, on a expliqué la différence entre Tzimtzum et Heilem.
Heilem.
On a donné les définitions. Tzimtzum, ça veut dire une contraction.
Okay.
Et Heilem, ça veut dire un voile. Qu'est-ce que ça veut dire? De quoi on parle? On a expliqué comme ça. On a expliqué que, c'est une idée qu'on avait déjà expliquée il y a quelques semaines, qu'en vérité, quand on parle de la notion des mondes, il ne faut pas faire l'erreur de croire que c'est des mondes différents. En vérité, ce n'est pas des mondes différents, c'est uniquement une évolution. C'est-à-dire que c'est la même, on avait donné l'exemple des atomes, etc. C'est-à-dire que c'est la même chose, c'est seulement une évolution. Qu'est-ce qui crée cette évolution? Qu'est-ce qui forme cette évolution? C'est deux éléments. Deux éléments parallèles qui vont être la contraction et le voile. Comment on explique? On va donner un exemple intellectuel avant d'arriver au spirituel. On va donner un exemple comment on retrouve ce concept de contraction et de voile dans le domaine intellectuel. On peut avoir deux types de personnes. On peut avoir un premier type de personne qui est très profond, c'est-à-dire qui réfléchit très très vite et qui réfléchit très profond. Mais que d'un autre côté, cette personne-là, même si elle réfléchit très profondément, je vais essayer d'être concis parce que c'est des notions qu'on a étudiées déjà la semaine dernière, même si cette personne est très profonde, ça ne change pas pour autant qu'elle est confuse. C'est-à-dire qu'on a donné un exemple la semaine dernière d'un ordinateur. Comme vous pouvez avoir dans un ordinateur, d'accord ? Vous pouvez avoir un ordinateur qui a un processeur qui est hyper rapide, mais comme il est fragmenté, il a des virus. Alors ça fait que même s'il y a un processeur qui tourne très vite, mais c'est flou. D'un autre côté, vous pouvez avoir un ordinateur qui ne tourne pas vite, c'est un vieil ordinateur, Pentium 3, un vieil ordinateur, d'accord ? Mais il n'a pas de virus, il tourne doucement, mais ce qu'il fait, il fait bien. De la même manière, dans le Sechel, dans tout ce qui concerne le domaine intellectuel, et partout on va retrouver ça, je donne un exemple dans l'intellectuel, on retrouve ces deux domaines-là, la contraction et le voile. Quand on parle de quelqu'un qui descend, on a ces deux niveaux-là. La contraction, ça veut dire, le premier niveau, c'est en quantité. Est-ce que la personne réfléchit vite ou elle réfléchit pas vite? Jusqu'à où elle peut aller? Mais c'est pas pour autant que ce sera clair dans sa tête. La quantité et la qualité. La quantité, c'est la vitesse à laquelle une personne peut réfléchir. Il y a des gens qui réfléchissent très très vite. Mais d'un autre côté, vous avez des gens qui vont réfléchir beaucoup moins vite qu'eux, et qui vont comprendre très très clair. Ça veut dire qu'une fois qu'on leur a expliqué la chose devient très très claire dans leur tête. On a expliqué la semaine dernière que ces deux notions, la notion de la quantité et de la qualité, de la vitesse et de la qualité, donc on appelle ça contraction et voile. Contraction, ça veut dire c'est est-ce qu'il y a beaucoup ou un peu, et voile, c'est-à-dire le peu qu'il y a, est-ce qu'il est voilé ou pas. On a expliqué que des fois une personne peut avoir les deux handicaps en même temps, des fois une personne peut avoir un des deux, et des fois on peut avoir aucun des deux. C'est une bracha du ciel celui qui a aucun des deux. Maman, on a toujours au moins un des deux. Au moins un des deux, ça veut dire, vous avez des gens qui sont très rapides, mais que c'est pas très clair dans leur tête. Et d'un autre côté, je me rappelle, j'avais une Ravruta à Yeshiva comme ça, quelqu'un de très très lent. Très très lent. Avant de comprendre quelque chose, ça lui prenait vraiment très longtemps. Mais une fois qu'il avait compris, il posait des questions, mais il pose la question, ça veut dire, il pose une question que tu sais pas où il est parti la chercher. Pourquoi? Parce qu'il avait cette qualité-là, que quand il comprenait quelque chose, il le voyait devant lui. Encore une fois, c'est deux éléments qui sont indépendants l'un de l'autre. La vitesse et la clarté. C'est valable dans le plan. Donc ça, c'est la contraction et le voile. De la même manière, quand un Kadosh Baruch Hu descend, dans le langage du Zohar, ça s'appelle Tzimtzum et Heilem. Deux manières comment un Kadosh Baruch Hu se contracte. Premièrement, un Kadosh Baruch Hu se contracte Tzimtzum. Ça veut dire qu'il nous donne très très peu de lumière. Et même le peu de lumière qu'il nous donne, on ne le voit pas. Et c'est ça ce qui fait qu'on a beaucoup de choses dans notre monde qui sont floues. On ne sait pas si c'est bon, si c'est mauvais. Voilà, par exemple ici, là, qu'est-ce que c'est? Je sais pas ce que c'est, quoi ça?
La bracha, j'étais en train de poser la question.
Mais c'est quoi ça? Des fèves. D'accord? Des fèves, c'est du Klipat Noga.
Hein? C'est Adama alors?
Ah oui.
On a expliqué, les fèves, c'est Klipat Noga. Tant que je ne l'ai pas mangé, j'ai pas fait une bracha, c'est un élément qui est neutre. Je peux l'utiliser pour faire des bêtises, je peux l'utiliser pour faire des mitzvot. Les deux. Quand je vais faire une bracha dessus, quelle bracha c'est?
Adama.
Je sais pas, ça a changé de forme quand même, hein?
Non.
Bon. Quand je vais faire une bracha dessus, qu'est-ce qui va se passer? Quand je vais faire une bracha dessus, cette fève-là va passer à la kdoucha. Donc ça veut dire qu'avec ça, on a expliqué que la même qui était valable dans le plan intellectuel, qu'on peut avoir deux, on peut avoir la contraction et le voile, c'est valable également dans le plan spirituel, c'est valable également dans le plan moral. Vous pouvez avoir des gens qui sont capables de sentir des choses très très loin. Ils sentent les choses très très fortes. Ils ont une sensibilité très très forte. Mais c'est pas pour autant que les limites chez eux, ils sont très floues. C'est-à-dire qu'une chose que pour quelqu'un de pachout, il y a des gens simples. Pour lequel, quand tu dis quelque chose qui est interdit, c'est interdit, point à la ligne. D'un autre côté, vous pouvez avoir d'autres personnes qui ont une sensibilité qui est très très fine, qui peuvent vous comprendre des choses très très fines, mais des fois, ils sont capables de vous transformer quelque chose de assourd en quelque chose de moutard. Comment il disait Rabbi Israël de Salent, il disait, la première fois quand on fait une avéra, on se sent mal. La deuxième fois, qu'est-ce qui se passe? La deuxième fois, le Yitzhara te dit, c'est déjà moins grave. La troisième fois, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? Troisième fois, la Gemara dit Nasitlo Keter. Ça lui paraît quelque chose de permis. Et Rabbi Israël, le Salin, il rajoute, il dit la quatrième fois, ça lui paraît comme une mitzvah. C'est ça, il rajoute. C'est très fort. C'est vrai. Ça veut dire qu'on peut avoir des gens qui ont une sensibilité très très forte, mais que c'est pas pour autant que des fois les limites peuvent être floues. Ça peut être valable dans le plan moral, ça peut être valable dans le plan intellectuel, et bien entendu, c'est valable dans le plan spirituel. Dans le plan spirituel, c'est la même chose. Qu'est-ce qui fait la différence entre notre monde et le monde d'en bas? Qu'est-ce qui fait entre le monde d'en haut? Qu'est-ce qui fait la différence? Qu'est-ce qui forme cette différence-là? Deux éléments expliqués à Admor HaZaken. Premièrement, la lumière qui est en bas est beaucoup moins forte que la lumière qui est en haut. Mais si on se serait arrêté qu'à cette limitation, alors on aurait été bien. Parce que ça veut dire, il y a un peu de lumière. Ok, l'ordinateur il tourne lentement, mais ce qui tourne, il tourne bien. Ça veut dire, on aurait vu un peu Dieu. On n'aurait pas vu beaucoup, mais un peu on aurait vu. Là, le problème qu'on a, ça serait bien. On aurait vu un peu, l'ordinateur il aurait tourné très très lent, il aurait fallu des années pour comprendre, mais tu vois Dieu. Voilà, on te dit, si tu vas faire ça, plus ça, plus ça, tu vois Dieu, obligé. Or, c'est pas comme ça. Pourquoi? Parce qu'à part le simsum, on a un phénomène de Elem. Elem, c'est-à-dire que même le peu qu'il y a, il est voilé. Contraction et voile. D'accord? Alors, ce que j'ai écrit ici, quelques notes.
C'est pas, hein?
Ouais.
Pas comme toi, hein?
Ouais.
Non, rien.
Non, je reconnais la fichier à cuisine.
C'est pour ça, que on peut avoir, c'est pour ça qu'on peut avoir des gens, on peut avoir des gens ici sur Terre, qui peuvent vivre pendant 70, 80, 90, 100 ans,
amen.
Et qui sont pas au courant que Yesh Balabait le Dirazo. Ils sont pas au courant qu'il y a, là, dis pas Amen.
Non, pardon.
D'accord? Ils sont pas au courant que Yesh Balabait, qu'il y a un patron sur cette Terre.
Ici.
Il y a un patron. Encore une fois, dans l'exemple que je donnais tout à l'heure, si l'ordinateur il tourne lentement, mais au moins tu sais, au moins tu vois, alors tu vois. Je ne peux pas dire qu'il n'y a pas de patron ici. On voit qu'une personne peut vivre des années, peut passer toute une vie, il peut mourir sans savoir qu'il n'y a jamais eu un patron. Pourquoi? Parce que Kadosh Baruch Hu, il a la contraction et il a le voile. Ah, maintenant, avec ça, pourquoi on a expliqué tout ça? Avec ça, on a expliqué quel est le rôle de la Kavana. Quel rapport entre avec la Kavana et tout ça?
Voilà.
Ah, ça, c'est très important.
Jean-Marie Oblato.
Ah, c'est sûr, ça va être le coup d'orgue. D'accord?
Le point d'orgue.
Développe son français avec ses mots et après son anglais.
C'est un peu voilé, mais ça va bien.
Non, après son anglais, son hébreu et donc, son yiddish. Non, le français, il va bientôt nous
dépasser. La clé
du
tunisien. Il manque plus que le tunisien. Donc, pareil, on va expliquer pourquoi on a expliqué tout ça. On a expliqué pour expliquer le rôle de la Kavana. Qu'est-ce qu'on a expliqué? On a dit que quand Akadosh Baruch Hu descend dans le monde ici-bas, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec cette sève que j'ai devant moi? Non seulement que la lumière qui est ici, la lumière est très contractée, c'est-à-dire qu'il n'y a presque pas de lumière. Et le peu de lumière qu'il y a, qui est ici, est voilé. Puisqu'il est voilé, c'est pour ça que c'est du flou. Je ne sais pas si c'est kadosh ou pas kadosh. Normalement, on a expliqué, techniquement, normalement, c'est impossible. C'est impossible qu'on ait quelque chose de flou dans le monde. C'est ou c'est annulé à Kadosh Baruch Hu, ou ce que j'ai ici est annulé à Dieu, donc c'est de la kdusha, ou c'est pas annulé à Dieu et c'est du mal. Impossible qu'il y ait du flou. Impossible. D'où ça peut venir ce concept du flou? C'est parce qu'il y a un voile. Et le voile, il fait que ça devient flou, on voit plus.
C'est vrai que c'est pas la première
Alors, qu'est-ce qui se passe quand on fait une mitzvah? D'accord.
C'est pas bon, mais...
Quand je fais une mitzvah, on va prendre un exemple. Je prends une peau de cuir. Donc une peau de cuir, avant que j'ai fait la mitzvah, avant que j'ai préparé les tefillin, cette peau de cuir-là était floue. Ça pouvait servir à faire quelque chose de bien, pouvait servir à faire quelque chose de mal. Donc on avait les deux facteurs, Tzimtzum et Elem. Contraction, puisque la lumière de Dieu est très contractée, ça c'est clair. Et Elem, il y a un voile. On ne sait pas si c'est Kadosh ou pas Kadosh. Je prends maintenant cette peau de cuir. Et je vais en faire des tefillin. Je vais en faire un Sefer Torah. Quel facteur on a enlevé maintenant ?
Le voile.
On a enlevé le deuxième, le voile. Pourquoi on a enlevé le voile ? Parce que le concept d'un voile, c'est que on ne sait pas si ça appartient à la Kdoucha ou pas. Maintenant, on sait que ça appartient à la Kdoucha. On est fixé. On sait, ça appartient à la Kdoucha. Mais, on garde toujours le premier handicap. C'est quoi le premier handicap ? Le premier handicap, c'est que la lumière est contractée. La lumière est contractée, et que puisque la lumière est contractée, donc on est limité. On fait toujours la mitzvah, on fait toujours la mitzvah dans un monde matériel, on reste dans un monde matériel. Rav Steinzel donne un exemple très intéressant pour expliquer ce concept-là. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on est limité ? Il donne un exemple très simple. Il dit, c'est comme si vous allez prendre un artiste, vous allez lui demander de vous dessiner une maison sur un papier. Maintenant, la maison est en 3 dimensions, on est bien d'accord. Le papier, 2 dimensions. Non, vous allez dire à l'artiste, je veux que tu me dessines la maison sur le papier. L'artiste, il ne peut pas dessiner la maison en 3D sur le papier. Le papier... Le médium du papier est limité. C'est impossible de dessiner du 3D. La seule chose qu'on peut faire, on peut créer une illusion. On peut créer une illusion. On peut faire une perspective, on peut faire des fantaisies, on peut faire ce que vous voulez. Mais le médium du papier est limité à 2 dimensions. C'est impossible. Quand l'artiste commence à dessiner, il sait que ça sera 2 dimensions. Que si tu vas toucher, ça sera 2 dimensions. Ça ne sera jamais 3 dimensions. Avec ça, le Rav Steinzel vous a expliqué, il dit c'est la même chose. Nous, quand on est en bas, tu me dis mitzvah, pas mitzvah, on est dans un monde 2D, 2 dimensions. C'est-à-dire même si en vérité, quand on fait une mitzvah, tu me dis qu'en vérité on a dessiné une maison, notre conception n'est pas faite pour voir cette lumière. Donc on est en 2D. La mitzvah, on ne voit pas l'effet que ça a. La seule chose qu'on peut avoir, c'est qu'on peut avoir une illusion, on peut avoir des fantaisies. Mais on ne peut pas voir l'effet que la mitzvah ici. C'est pour ça, hein. C'est la même chose. Nous quand on est ici, on dit des mots de tefila. Des mots de tefila, c'est des mots gashmi, c'est des mots matériels. Si, la semaine dernière, j'ai amené un exemple, j'ai dit il y a quelques semaines, il y a une femme ici qui est venue, une arabe, elle m'a dit son frère, elle m'a montré une photo. Elle m'a dit, est-ce que vous savez ce que c'est ? Alors je regarde, je vois des lettres écrites en hébreu. Qu'est-ce que c'est ? Apparemment, c'est un manteau de Sefer Torah. Je lui ai dit, d'où vous avez ça ? Elle m'a dit, mon frère, il habite à Marrakech. Et il a trouvé au marché quelqu'un qui lui a vendu ça. Je lui ai dit, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'elle a trouvé ? Elle m'a dit, mon frère, il a déroulé par terre, c'est un rouleau qui fait environ 30 mètres.
Chemin.
C'est vers Torah.
Oui, il y a un rouleau par terre.
Et moi, quand j'ai entendu ça, j'ai...
Tremblé.
En plus, c'était juste avant la Khnazat Sefer Torah. Juste avant la Khnazat Sefer Torah.
C'est pas l'histoire.
Oui. Elle est venue ici comme ça, 2h de l'après-midi, elle vient, elle sonne. Je ne sais plus qui c'est qui l'a envoyé, quelqu'un qui est en face qui a dit ici il y a une synagogue, elle est venue ici à la semaine.
C'est David qui l'a envoyé.
C'est toi qui l'a envoyé ?
Je crois.
Ouais. Ah, bon. Je sais pas, elle m'a pas dit que toi qui l'a envoyé. Elle est venue. Bon, après on a réussi, au Hachem, on a trouvé le numéro de téléphone d'une chou qui avait là-bas à Marrakech, etc. Il s'est arrangé pour l'amener à la chou. Enfin, j'espère qu'il l'a amené. Il a dit qu'il allait l'amener, etc. Plus que ça, je pouvais pas faire. Pour dire quoi ? Pourquoi j'amène cet exemple-là ? Pour dire que l'arabe.
Et elle avait quoi ? Que le manteau ?
Elle. Son frère, il savait pas, d'accord. Alors elle lui a dit, écoute, j'ai... Elle n'avait pas le manteau, elle avait une photo qu'il a envoyée par internet. J'ai eu des choses... juste avant la fête de Vertora, c'est un signe... Alors, pourquoi je vous raconte cette histoire-là ? Qu'est-ce que j'ai vu dans cette histoire ? Le goy, quand il a pris le Sefer Torah, il n'a pas senti la Kdoucha. La preuve, il a déroulé par terre, il a pas senti. Il voulait savoir ce que c'était. À la limite, il voulait savoir est-ce qu'il pouvait en faire de l'argent.
Hein?
C'est ça ce qu'il voulait savoir. Il voulait savoir est-ce qu'il pouvait en faire de l'argent. Bon, moi, j'ai fait bien peur à la dame. Je lui ai dit, vous savez, c'est très sacré. Si on jette ça par terre, c'est très très grave. Et tout le monde, je l'ai un peu, les Arabes, ils ont...
Ils ont le refrain.
J'étais obligé. Quand j'ai entendu, il a déroulé par terre.
Bien sûr.
Chemichement. Imaginez, on vous entend, quelqu'un me raconte comme ça. Avec le sourire, elle me raconte presque.
Pas shoot. Mimout.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Sefer Torah, même si nous on a écrit un Sefer Torah, et même si pour nous le Sefer Torah c'est ce qu'il y a de plus grand qui peut exister, ça reste du 2D, ça reste 2 dimensions. C'est pour ça que tel que le Sefer Torah est en bas, il n'y a que moi qui sais que c'est une mitzvah, que je vois que le Sefer Torah est kadosh. Mais un goy qui passe à côté, si tu ne lui expliques pas que le Sefer Torah est kadosh, il ne verra pas. C'est ça le problème.
Même quand tu l'expliques, il ne va pas le voir.
Même quand tu l'expliques, il ne verra pas.
Simplement dire, d'accord.
Et là va être le rôle, de la Kavana. Et c'est normal, encore une fois, c'est la limitation de dimensions. C'est comme ça, c'est limité. On sait que ça va être limité. Des mots de tefila, c'est des mots, ça reste des mots gashmi, des mots matériels. La seule manière pour nous de contourner cet handicap, de contourner ce problème de tzimtzum, de contraction, ça veut dire d'être capable d'apercevoir de la kdusha, c'est en passant par la kavana. Comme on va expliquer. Qu'est-ce qui se passe? Merci.
D'accord, donc c'est d'apercevoir...
C'est
pour
moi, c'est ça?
Hein,
d'accord.
C'est l'apercevoir de la kdusha, c'est ça que tu veux dire?
D'apercevoir de la kdusha. Alors juste, je vais raconter une petite histoire. Deux histoires, en fait. Deux histoires du Baal Shem Tov.
Non, parce que c'est Shabbat, hein.
Deux histoires du Baal Shem Tov pour illustrer ce que je vais expliquer ici.
Merci.
On sait très bien que c'est connu... C'est connu que le Baal Shem Tov était quelqu'un qui était mekarev, qui rapprochait beaucoup les juifs simples.
Yes.
Juifs simples. Il y avait des juifs, à l'époque du Baal Shem Tov, qui passaient le clair de leur Shabbat à lire Tehilim. Ils venaient à la synagogue, ils lisaient Tehilim. Et les gens... Hein,
non, quand la bouteille sera finie, on pourra attaquer la whisky, la lisette. C'est une technique.
Donc c'est connu que le Baal Shem Tov, pardon, était Mekarev, rapprochait beaucoup les gens simples. Il donnait beaucoup de cavotes de gens simples.
Pecht.
Et c'est quelque chose qui dérangeait, non seulement, bien entendu, les Talmidei Chachamim qui n'étaient pas chassidim, mais quelque part, ça dérangeait aussi les élèves du Baal Shem Tov, qui étaient des grands tzadikim, des grands géonim en eux-mêmes. Des grands géonim, des gdolim en eux-mêmes. Et ça, des fois, ça les dérangeait. Une fois, il y a un des élèves qui a osé poser la question au Baal Shem Tov, et il a dit, mais pourquoi vous donnez tellement de kavod aux gens simples? Bon, encore, vous donnez du kavod, ça va, mais pourquoi vous donnez tellement de kavod aux gens simples? Aux gens simples qui lisent Tehilim pendant Shabbat, ça va, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'ils ont fait déjà? Ils se font Tehilim, je ne sais même pas s'ils comprennent ce qu'ils disent, ils font des fautes quand ils lisent, etc. Le Baal Shem Tov n'a pas répondu à la question. J'entends David. Le Baal Shem Tov n'a pas répondu à la question. Au lieu de répondre à la question, qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à ses élèves de mettre chacun la main sur l'autre. Vous savez comme on fait quand on est au Gan Israël ou en colonie. D'accord ? Donc il a demandé à ses élèves de mettre chacun la main l'un sur l'autre. Et après, lui, il a mis la main sur le dernier des élèves. Et là, à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils ont vu les élèves à ce moment-là ? Les élèves ont vu très fort ce qu'ils ont vu. Ils ont raconté, après c'est eux-mêmes qu'ils ont raconté. Ils ont raconté qu'ils ont vu comment les mêmes Tehilim qu'ils étaient en train de voir en bas, c'était des Tehilim qui arrivaient au Gan Eden. Ils ont vu. C'est-à-dire que le Baal Shem Tov, par la force qu'il a, la force physique, le fait qu'il a touché ses élèves, il leur a fait sentir comment les Tehilim que ces juifs-là étaient en train de dire, il leur a fait découvrir une dimension qui était plus haute. Il leur a fait découvrir comment on est en train de dire ces Tehilim-là au Gan Eden. Là, bien entendu, les élèves n'ont plus jamais reposé la question. Bon, on aurait mettre là-bas. Hein. Ouais. D'un autre côté, d'accord. Très bien.
Voilà.
Qu'est-ce qu'il a fait le Baal Shem Tov ici? Le Baal Shem Tov, il n'a rien fait ici. A priori, il n'a rien changé. La situation est restée la même. Les listes de Tehilim sont restées les mêmes. Les juifs sont restés les mêmes. Qu'est-ce qui a changé?
Il a montré la...
Qu'est-ce qui a changé?
Un angle différent.
Ce qui a changé, c'est que le Baal Shem Tov, pardon, a réussi à démontrer à ses élèves comment la Kavana, grâce à la Kavana que ces gens avaient, leur Tehilim ne restait pas bloqué en bas. Leur Tehilim décollait. Et puisque leur Tehilim décollait, ça c'est extraordinaire. Ça veut dire qu'ils n'avaient plus, non seulement qu'ils n'avaient pas l'handicap, puisque c'est les Tehilim, donc ils n'ont pas le voile. On sait que c'est les Tehilim, on sait que c'est Kadosh.
D'accord, c'est bon le voile.
Et puisqu'ils ont la Kavana, ils ont enlevé aussi l'handicap de la quantité, parce que leur Tehilim montait très haut. D'un autre côté, ça c'est une histoire que j'ai déjà racontée. J'ai raconté il y a quelques mois. Une fois, le Baal Shem Tov était en train de marcher avec ses élèves. Et il a entendu comment un juif, je me rappelle qu'on avait rigolé avec cette histoire. Gamliel, bon, il n'est pas là, mais il avait beaucoup rigolé cette histoire. Le Baal Shem Tov, une fois, il marchait avec ses élèves. Voilà. Et il entend quelqu'un qui est en train de se battre avec une autre personne, verbalement. Verbalement, ils n'ont pas utilisé
querellé.
Verbalement, ils se querellaient. Querelé. Et il entend un qui dit à l'autre, qui lui dit, je vais te déchirer comme un poisson. Vous vous rappelez l'histoire?
Je me rappelle parce que comme
les insultes de l'époque, ouais.
Ouais, comme un poisson, ça les a fait.
Je vais te déchirer comme un poisson. Et là, le Baal Shem Tov a été très choqué quand il a entendu cette phrase. Et pareil, dès la première occasion, il est rentré au Beit HaMidrash. Il a demandé à ses élèves de se rassembler. Pareil, il a refait le même exercice. Et il leur a montré comment spirituellement, ce juif-là était en train de déchirer son ami comme un poisson. Bien que vous allez me dire, oui, mais c'est verbal. Il n'a rien fait.
Il avait la cabana.
Non, ça veut dire que c'est verbal, il n'a rien fait. Ça ne marche pas, ça n'existe pas. Même si nous, dans notre monde, on est en deux dimensions et qu'on ne voit pas. On ne voit pas. Nous, on ne voit pas comme quand j'ai dit un mauvais mot, j'ai tué quelqu'un. Je ne vois pas. Les maasé, en vérité, quand on nous parle de la gravité du Lashon Hara, pourquoi on nous parle de la gravité du Lashon Hara? Parce que dans le Lashon Hara, Dieu préserve, on crée une réalité. On crée une réalité négative contre cette personne-là. C'est pas simplement un mauvais mot qu'on dit envers une personne. On crée une réalité négative. C'est valable pour le positif, c'est valable aussi pour le négatif. C'est valable des deux côtés. Ça, c'est le rôle de la Kavana. C'est quoi le rôle de la Kavana? Le rôle de la Kavana, c'est de sortir du monde des deux dimensions, de pouvoir s'élever, de pouvoir monter plus haut. Et là, automatiquement, on a enlevé, comme je dis, le deuxième handicap, l'handicap de la contraction. Donc, qu'est-ce que je conclue avec ça? On va reprendre dessus dans les mots. J'écris un petit peu. Ça.
Donc, je n'explique toujours pas pourquoi il y avait plus de Kavana des gens
oui,
simples.
C'est une bonne question.
Ça explique toujours.
Pourquoi la Kavana, apparemment, des gens simples, elle était peut-être plus facile à...
Ça, je donnais l'exemple tout à l'heure. J'ai dit qu'en vérité, des fois, plus les gens sont simples...
Et plus la Kavana, elle
est... plus la Kavana est sincère.
Ça, oui.
D'accord. Ça veut dire qu'il n'y a plus...
Il n'y a pas de calcul.
Oui.
Il n'y a pas de calcul.
J'ai pas dit simple, mais enfin...
Il adore attaquer.
Il n'y a pas de calcul, c'est ça.
Oui, c'est ça. C'est vrai.
Elle dit qu'ils ont une Kavana plus forte, parce qu'elles ont une moyenne plus forte.
Tu sais, je me rappelle que... Quand je donne, quelquefois, ça m'arrive de donner le cours aux femmes le mercredi soir. Le cours aux femmes. Et bon, je vous dis honnêtement, des fois quand je donne le cours, bon, c'est off record, hein.
C'est off record.
Non, c'est pas grave. Des fois quand je donne le cours, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de femmes qui comprennent pas. Ça veut dire, il y a une construction, il y a une question, il y a une réponse, comment on essaye de répondre. Il y a une construction. Non, je parle que bon, il faut parler aux femmes comme une femme. Il y a une construction. Et des fois, j'ai l'impression, par rapport aux questions que les gens posent après, que j'ai l'impression que certaines femmes n'ont même pas compris ça veut dire, par exemple, ils vont te reprendre une histoire que j'ai racontée au milieu du cours pour développer quelque chose. Mais j'ai l'impression qu'ils n'ont pas compris le concept du cours, qu'il y avait une question, il y avait une réponse, etc. Bon. Et d'un autre côté, des fois, par la question qu'ils vont poser, ils vont poser une question pratique. Je sais pas, par exemple, j'ai donné une notion, mais je l'ai passée comme ça, la notion, dans le cours, j'ai raconté une histoire, et il y a une femme qui a retenu que cette notion. Tout le cours, elle a réfléchi à cette notion. Et à la fin du cours, elle pose une question sur cette notion. Maintenant, elle n'a pas écouté le reste, elle n'a même pas compris. De sa question, je comprends qu'elle n'a pas compris le reste. Et ben, vous voulez que je vous dise, des fois, j'ai l'impression que même si elle n'a pas compris le cours, mais quelque part, cette femme-là, le peu qu'elle a compris, elle l'a compris, elle le ressent. Elle le voit devant elle. Et c'est pour ça que comme elle le voit devant elle, elle pose des questions que moi jamais j'aurais pu imaginer. Ça, on le voit chez les femmes. On le voit très fort, de manière très forte chez les femmes. Quand on explique quelque chose à une femme, chez nous ça paraît très logique. Et tout de suite la femme elle nous arrête sur un plan technique. Parce que elle, la femme, elle a la force de Bina. Elle voit tout de suite la chose devant elle. Elle s'imagine la chose devant elle.
Et quand on a une émouna plus facile aussi. On a l'impression que la femme a une confiance plus
facile. Parce que la Kavana, elle décolle plus vite. Enfin. Donc la Kavana ici a double rôle.
Donc, tu vois,
Non seulement grâce à la kavana, comme j'ai dit, la mitzvah, elle peut monter, elle n'est pas bloquée en bas, comme on va voir tout de suite. Et à part ça, la sensation que la personne aura, ce sera une autre sensation, comme c'est juif qui est en train de dire Tehilim. C'est autre chose, c'est un autre niveau. Alors on va dire tout de suite, on va expliquer ça un peu mieux dans les mots aujourd'hui. Donc on s'est arrêté, ou basé Yuvan Hetef. C'est un peu notre temps, mais c'est important. Ou basé Yuvan Hetef.
Oui, mais il y a une chose que j'avais dit que c'est vachement important, si c'était... De quelle manière Akadosh Baruch Hu il se cache.
Oui. Bon, ça c'est. Je ne l'ai pas répété parce que ça ne concerne pas la
suite.
Ou basé Yuvan Hetev, avec ça, on va très bien comprendre. Ah des trilou chimou. Donc c'est pas Jnouné. Avec ça, on va comprendre. Ah des trilou chimou nikra im gadfin. Avec ça, on va comprendre le fait que dit le Zohar. Quand on l'avait dit juste, on l'avait dit au début du Perek, au début du Perek même, que trilou chimou nikra im gadfin derech macha. Que l'amour. La crainte, pardon, et l'amour, Nikra et Mgatfim sont appelés des ailes. Vous vous rappelez, on l'a dit au début du Pérec. Quel rapport avec des ailes? Qu'est-ce que ça veut dire? On avait parlé des anges aussi, on avait dit que les anges avaient des ailes, pas les ailes comme on voit dans les images. C'est des ailes, c'est quoi le concept de l'aile? Déjà avant d'expliquer le concept de l'aile, Admor HaZaken dit que le Zohar n'invente pas, le Zohar a des preuves. Kézirtiv, comme c'est écrit, ou Bishtaim Yofef. Quand on parle des anges, on parle des séraphim, on dit qu'ils volent Bishtaim avec deux. De quoi? Avec deux ailes. Moshe Katav Rav Chaim Vital Tal Beshar Yehudim Perkudalef. Comme a expliqué le Rav ou Rabbi Chaim Vital, comme on l'appelle aujourd'hui, dans Shar Yehudim, dans son livre, dans Shar Yehudim, il a écrit là-bas, Shak Nafaim Be'of Hen Zrotad, que les ailes chez l'oiseau sont l'équivalent des bras de l'homme. Alors qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Alors les bras de l'homme, on sait très bien ce que dit le Zohar dans le Patach Eliyahu. C'est écrit Chesed Dero Yemina, Dero Yemina, Gvura Dero Smola. Le Chesed droit, ça veut dire c'est le Zroa, le Dalet et le Zayin s'interchangent dans l'araméen, entre l'araméen et l'hébreu. Donc Chesed Dero Yemina, le Chesed c'est le bras droit, et Gvura Dero Smola, la Gvura c'est le bras gauche. Qu'est-ce qu'il dit Rav Chaim Vital? Rav Chaim Vital il dit comme ça. Il dit que les ailes chez l'oiseau correspondent au bras qui est chez l'homme. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi cette histoire d'ailes? Hein? C'est quoi ce concept d'ailes? Regardez ce qu'il va expliquer ici. Ouvetikun impirsh. Sha'oskim betora o mitzvah bitrilu uchimu. Nikraim bani. Encore une autre référence avant d'expliquer. Dans Tikkun et Zohar, ils ont expliqué que ceux qui font Torah et mitzvot, bitrilu uchimu, ceux qui font Torah et mitzvot avec crainte et amour, dans le bon ordre, nikraim banim, sont appelés des enfants. Ve'imla, ve'sinon, écoutez bien ce qu'on dit ici, nikraim efrochim de lo yachlin lefarcha. Si on fait une mitzvah, où on étudie la Torah, sans kavana, en d'autres termes, ça veut dire sans amour, sans crainte.
Sans trilou.
D'accord. Sans trilou chimou.
Trilou chimou, ça veut dire kavana.
Oui. Non. La même chose. Non. C'est le même concept.
Mais non.
Oui.
Mais non, on a vu qu'il y a plusieurs types de kavana.
On a dit qu'il y avait un amour et une crainte qui étaient analysés. Comme voilà. Il y avait un amour et une crainte qui étaient instinctifs. On avait donné l'exemple du chant de mi. D'accord, mais ça ne change pas qu'on parle toujours de l'amour et de la crainte. D'où elle vient?
Oui, mais... Il faut avoir une kavana qui est intéressante, on a vu aussi.
L'amour et la crainte de Dieu. Est-ce que l'amour et la crainte de Dieu? On a dit qu'il y avait deux types. Il y avait le monde de Yitzira et le monde de Bria. Est-ce qu'elle est analysée ou est-ce qu'elle est instinctive? Bon, deux catégories. D'accord. De lo yachlin nefach. Quand on fait une Torah et mitzvah sans kavana, ou bien si vous préférez sans amour et sans crainte, alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'il dit le Zohar? Le Zohar dit, on est appelé à ce moment-là Efrochim de lo yachlin nefach. Des oisillons qui ne peuvent pas voler, des poussins qui ne peuvent pas voler. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi ce concept? Les poussins, les oiseaux, les ailes? Pourquoi on parle? Ah, il explique, l'Admor HaZaken.
Ah oui.
Là, vous allez voir comment ça va. Il va brillamment expliquer. On va comprendre, ça va être clair, ça va être limpide. Grâce à tout ce qu'on a expliqué jusqu'à maintenant. Dans le chapitre, la tête et même. Il explique. Il dit, Gikmo, Shekan Fea Off, Enam Ikara Off, de la même manière que les ailes d'un oiseau. Enam Ikara Off. Ils ne sont pas le principal de l'oiseau. C'est vrai que l'oiseau a des ailes, et que l'oiseau a besoin des ailes pour voler, mais les ailes ne sont pas le principal de l'oiseau. Ve'en chayuto talul ba'em klal. La vitalité de l'oiseau ne dépend pas de ses ailes. Ça veut dire qu'un oiseau à qui on enlève les ailes, comme il dit ici, kedit nan, comme c'est écrit, dans il chot trefot, ça vient de la Mishnah Chulin, nitlu agapea kshera. Si les ailes d'un oiseau ont été enlevées, ont été détachées, kshera, l'oiseau reste kasher. Pourquoi? Parce qu'on considère que le défaut n'est pas un défaut fatal, d'accord, qui fait que l'animal va mourir. On considère que l'animal peut continuer à vivre. Il pourra peut-être pas voler, ok, mais il pourra continuer à vivre.
Oui,
il peut vivre toute sa vie comme ça.
Poules,
ça veut dire que c'est comme dans la voiture, on aurait donné ça en option. Hein. Quand vous achetez une voiture, on vous dit voilà, en option, vous avez des ailes. La même chose. L'oiseau, il peut vivre toute sa vie sans les ailes. Il n'a pas besoin des ailes. La preuve, c'est l'halakha.
Un oiseau sans ailes, on se fait pigeonner quand même.
Chez l'oiseau, les ailes sont en option. D'accord. Donc, Niklu Agapea Kshera. Si les ailes ont été enlevées, ont été détachées, puisque c'est pas un élément vital, et que si les ailes ont été enlevées, donc c'est pas fatal, il va rester en vie. Kshera, l'oiseau reste caché. Vers Ikar ou Roche Vechol Goufo. Quel est le principal dans l'oiseau? C'est sa tête et tout son corps. Là, c'est important.
Tu as dit Ikar?
Ikar, l'important. Le principal. Vaknafaim, Einam Rak Mesham Shim le Roche Vechol Goufo.
C'est-à-dire les mazim qui se perdent.
Les ailes ne sert seulement. Des remazim, vous voulez.
Oui,
il y avait un voile.
Ouais, ouais, c'est ça. Il y avait du chant, de la chambre.
J'ai raté quelque chose.
Icar.
L'homme qui voulait voler. C'est quoi l'antique?
Ah, d'accord, oui, d'accord. Oui.
L'homme qui voulait voler.
Icar, oui. Icare.
Je vais aller en cire, tout ça.
Jaïka.
Mais non, on comprend.
Jaïka. Vaikar ou Rochevechol Goufo, l'essentiel et la tête et tout le corps. Vaknafaim et Namrak Meshamshim le Rochevechoufo. Les ailes sont là seulement pour servir la tête et le corps. Les Fachabion pour voler avec eux, c'est en option. Quand on nous dit que la Torah et Mitzvot sont les ailes de la personne, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire de la même manière. Car derrière Machal.
Non, les ailes, c'est pas Torah Mitzvot.
C'est même Rochadèche pour de l'eau. Elle m'a aimé la Torah.
Les ailes, c'est la Kavana.
La Kavana.
Très bien. Comment on retrouve les ailes dans la. Qu'est-ce que ça veut dire que les ailes, c'est la Kavana? C'est la même chose.
Là, on maintenant. Peut vivre sans voler.
Ça va être la conclusion de ce qu'on a expliqué depuis chapitre 35, 35, ouais. 36, 37, 38, 39, 40. Qu'est-ce qu'on a expliqué? Mais car derrière Machal. Pareil, de la même manière. A Torah Mitzvot, en Ikar a Yichuda Elyon. La Torah et Mitzvot. Em Ikar Ichuda Elyon sont le principal, c'est elle qui, c'est-à-dire la Torah et Mitzvot. Quand je dis Torah et Mitzvot, c'est-à-dire sans Kavana, le fait que je mets les téfilines avec ou sans Kavana, même si je pense pas que je crains Dieu à ce moment-là, le fait que je fais la Mitzvah, ça c'est le principal. Ça c'est la tête et le corps. À l'idée, Gitsul, Gilou Iratson Elyon et Mitgalel Idem. Le fait que je fais une Mitzvah, je dévoile la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Donc j'enlève le voile. Peu importe si je le sens, ou je le sens pas, comme l'exemple que je donnais la dernière fois, quelqu'un à qui on a forcé de manger de la matzah, on lui met un flingue, on lui dit tu manges la matzah ou on te tue. Il a mangé la matzah, il a fait la mitzvah. D'un autre côté, vous avez une personne qui va réfléchir toute la journée à accomplir une mitzvah, mais il n'a pas fait la mitzvah matériellement, il a rien fait. Pourquoi? Parce que le ikar c'est quoi? Le ikar c'est la mitzvah. Celui qui a que la kavana sans la mitzvah, c'est comme celui qui a des ailes sans l'oiseau. Il a des ailes, il a l'option, mais il a pas l'oiseau. Il a l'autoradio, mais il n'a pas la voiture. C'est la même chose.
C'est lamentable.
Le pauvre.
On t'a vu une fois avec l'autoradio dans la main, c'est lui la voiture. Tu l'enlèves, l'autoradio. Avant, c'était comme ça, mais il n'y a plus.
Le quart d'heure, match à... Ah bon, à tort, on a enlevé, ouais.
En fait, c'était...
Non, elle a fait...
Ouais.
Quand tu voyais quelqu'un on mettait sous le siège. On mettait sous le siège. Car, derrière Machal, pareil, de la même manière, à Torah et Mitzvot, en Icar, à Torah et Mitzvot sont le principal Icar de la Ayichud Elyon. C'est-à-dire, c'est ça ce qui fait toute l'action. Allez, dès Gilou Iratson Elyon, Amidgal Al Yedem. Quand je fais une mitzvah, qu'est-ce qui se passe? Je dévoile la volonté de Dieu. Comme ce qu'on a expliqué, ça veut dire que j'enlève le facteur voile. Maintenant, on est fixé. On sait que cette peau de cuir est cachère. Cette peau de cuir est kadosh. Bah, trilou chimou. C'est quoi le rôle du trilou chimou de l'amour? De la crainte et de l'amour? Emalin otam. Leur rôle, c'est qu'ils vont monter cette mitzvah-là. Les makom chez itgale boaratan arensov aurou va yichud chehem ayetira ouvria. Quel est le rôle de la kavana? Le rôle de la kavana est seulement de monter la mitzvah à une hauteur, à un endroit qui est plus haut, de manière à ce qu'on puisse sentir. À ce qu'on puisse sentir ce qui vient de se passer. Même si t'as pas senti, ça s'est passé. La preuve, c'est que quand ma chère va venir, va nous ouvrir les yeux, il va nous montrer que même si on vivait dans un monde deux dimensions, en vérité c'est du 3D. Il va nous mettre les lunettes spéciales. Je me rappelle quand j'étais petit, on allait à Mirapolis, il y avait là-bas un jeu, là-bas on peut en rentrer, tu mettais des lunettes, tu voyais un... D'accord? Mirapolis, t'as connu Mirapolis?
Non.
Rappelle, elle m'a marqué, je connais.
Prépolis, pas Mirapolis.
Ouais. Pareil, ça veut dire, je me rappelle, on rentrait dans un endroit, quand tu rentres, tu vois rien. Et tu mets des lunettes, et tu vois des choses extraordinaires. Ouais, ouais. Quand tu enlèves, tu vois que des lumières, tu vois rien. C'est ça. Quand tu passes à revenir, elle va nous mettre des lunettes, là on va voir tout en 3D. Là on va voir qu'en vérité, il y avait du 3D. Mais pour l'instant, tant que ma chère n'est pas venue. D'accord? Tant que ma chère n'est pas venue.
À filou de nez, on voit pas.
Ah, par contre, sauf 2D, on peut voir. 2D, on peut voir. Pourquoi? Parce que quand je mets les tefilines, je sais maintenant que les tefilines sont kadosh. Donc je suis fixé. Je vois pas la lumière, mais je sais qu'ils sont kadosh. Donc le facteur voile, je l'ai enlevé. C'est plus voilé, on sait que c'est kadosh. Le seul facteur qui reste, c'est le facteur de la contraction.
Oui, mais si t'as
c'est-à-dire le fait que, c'est bon. Même si je sais que c'est kadosh, mais dans les faits, cette peau de cuir et cette peau de cuir, c'est la même. Pas de différence. La preuve, l'exemple du goy avec le Sefer Torah, la ville tout à l'heure. D'accord ? La preuve. C'est quoi le rôle de la Kavana ? Le rôle de la Kavana, c'est que le juif va s'élever encore plus haut. Qu'est-ce qui va se passer quand je vais dire les mots de Torah ? Quand je vais dire les mots de Torah, quand je vais faire une mitzvah avec une Kavana, puisque la Kavana arrive à un monde qui est plus haut, ou bien Yetira, ou bien Bria, alors automatiquement la mitzvah bénéficie de ce niveau-là. Et la mitzvah, ça va être un double sens. Tout d'abord, la mitzvah va plus se dévoiler dans le monde, et moi je veux plus la sentir. On va gagner des deux côtés. Et la mitzvah va plus se dévoiler dans le monde, parce que ça sera plus visible, et moi je veux plus la ressentir. Ça c'est le rôle de la Kavana. Continuez à demander. Veiné. On fera après les Hagaot.
Veiné.
La Hagaot, les notes. Attends, Veiné. Av des trilouchimou. Donc la Gemara Zaken continue à expliquer maintenant sur la crainte et sur l'amour. Av des trilouchimou em gam ken mitarek mitzvot. Bien que la crainte et l'amour d'Akadosh Baruch Hu font partie eux aussi des 613 mitzvot, donc encore en d'autres termes, puisqu'ils font partie eux aussi aimer Dieu et craindre Dieu, c'est machloket. Il y a des décisionnaires qui pensent que ça fait partie des 613 mitzvot, il y en a qui pensent que ça fait partie des 613 mitzvot. Par exemple, Maïmonide pense que ça ne fait pas partie des 613 mitzvot, parce qu'il pense que c'est une mitzvah d'ordre général. Bon, quoi qu'il en soit, d'accord, que ça fasse partie du 613 mitzvot ou pas, la majorité de ceux qui comptent les mitzvot, Rassag, etc., c'est un mitzvot Katan, ils pensent que ça fait partie des 613 mitzvot. Que ça fasse partie des 613 mitzvot ou pas, du compte technique de 613 ou pas, quoi qu'il en soit, aimer Dieu et craindre Dieu, c'est une mitzvah. Or, a priori, la Gemara Zaken pose la question, qu'est-ce qu'on a expliqué ? On a expliqué que la mitzvah, c'est le corps de l'oiseau. Or, qu'est-ce qu'on vient d'expliquer ici ?
Les ailes.
Que l'amour et la crainte sont les ailes. Alors, c'est les ailes ou le corps ? Vous prenez la question ?
Oui.
Allez, elle est évidente, la question. Féiné. Ah, des trilou, chimou, amgang, kamitarag, mitzvot.
L'aile ou la cuisse ?
Oui.
Bien que trilou, chimou, que la crainte et l'amour de Dieu font partie aussi des 613 mitzvot, afal piken quand même, nikraim gatfim quand même, on a vu que le Zohar et le prophète les appellent gatfim, des ailes. Pourquoi ? Liot, kitach lita ava, ou avoda, mais ava. Là, Admon Razaken explique quelque chose de très fort. Étant donné que tu as raison, c'est vrai que aimer Dieu, la mitzvah, aimer Dieu en soi, c'est une mitzvah. Très bien. Mais c'est pas de ça qu'on parle quand on parle de Kavana. Quand on parle de Kavana, on te dit que pas seulement tu vas aimer Akadosh Baruch Hu, mais la Torah et mitzvot que tu vas faire vont être alimentées et vont être générées. D'accord ? Vont être, pas mouvementées, comment on peut dire ? Ils vont être...
Animées,
oui. Ils vont être animés par cet amour-là. Ça, c'est différent. En d'autres termes, ça veut dire comme ça. La mitzvah, c'est d'aimer Akadosh Baruch Hu. J'aime Dieu. Si j'aime Dieu, c'est bon, j'ai fait la mitzvah. Mais là, j'ai pas d'ailes, j'ai que la mitzvah. C'est quoi les ailes ? À quel moment les ailes vont intervenir ? Les ailes vont intervenir quand je vais utiliser cet amour-là pour faire toutes les mitzvot. Comme on a expliqué, il y a deux types. Il y a ou celui qui va être analysé ou celui qui va être instinctif. Je rappelle, celui qui est analysé, ça veut dire que la personne va réfléchir à Kadosh Baruch Hu. Et tellement il va réfléchir à Kadosh Baruch Hu, ça on le voit très souvent chez les Baal et Tshuva. Tellement il a réfléchi à Kadosh Baruch Hu que toutes les mitzvot qu'il va faire, il va sentir le feu. Moi, j'avais donné l'exemple, des fois vous voyez des Baal et Tshuva, ils font une mitzvah. Je sais pas moi, ils font une bracha sur un verre d'eau. Chakol niyam mitvaro, vous avez l'impression qu'il y a du feu dans le verre d'eau. Chakol niyam, il n'y a rien, qu'est-ce qui t'existe ? D'accord ? Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que la personne, ça c'est à la suite d'une kavana analysée. Comme il a réfléchi. Il a réfléchi comment il est très loin d'Akadosh Baruch Hu. Donc non seulement qu'il aime Akadosh Baruch Hu, mais cet amour-là va animer toutes ses mitzvot. Et on le voit. Ça c'est le top niveau, c'est le niveau des tzadikim. Le niveau d'en dessous c'est quoi ? C'est celui que c'est pas, il n'est pas au niveau des tzadikim, c'est instinctif. Très bien. Ça t'es... Ah. Il attendait, hein.
Mais il le sait, qu'il est. Il se reconnaît.
Nous, on est, Alvaï. Au deuxième niveau, c'est le niveau où c'est instinctif. D'accord ? Ça veut dire quoi, c'est instinctif ? Ça veut dire que je vais utiliser cet amour et cette crainte que j'ai envers Akadosh Baruch Hu. L'amour et la crainte, c'est une mitzvah. Mais je vais utiliser cet amour et cette crainte. Ça va être le moteur. C'est ce qui va animer mes autres mitzvot. C'est Ava bli avoda, i a Ava betanugi blit aneg al Hashem me ein olamaba. Donc l'amour qu'on connaît ici, i a Ava betanugi blit aneg al Hashem ein olamaba. Ve kabbal atzachar va yom la sotam ktiv ou le machar le kabel srara. Qu'est-ce qu'il dit ici? Il explique comme ça. Il dit que, on sait très bien ce que le verset dit dans Dvarim, Romage Dvarim, le verset dit ayom la sotam. Aujourd'hui, vous faire les mitzvot. Et les Chachamim ont appris de ça dans la Gemara et Rouvin. Qu'est-ce qu'on a appris de ce verset-là ? Que Ayom, la Sotam, aujourd'hui, il faut faire les mitzvot. ou les machar, et le lendemain, hein, demain, les kabel sraram, c'est demain qu'on va recevoir le salaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que normalement, quand un juif fait une mitzvah, il ne bénéficie pas tout de suite de son salaire. Quand il fait la mitzvah, il vit seulement la mitzvah en bas. C'est quoi le rôle de la kavana? Le rôle de la kavana, c'est que grâce à la kavana, on commence à profiter du salaire de la mitzvah, déjà depuis maintenant. Donc là, on a expliqué, là, l'Admor HaZaken va conclure ce qu'on a expliqué. Il a conclu qu'on a expliqué qu'il y avait deux types de kavana. La kavana analysée, comme on avait trouvé une définition. On avait trouvé une définition. La kavana réfléchie et la kavana instinctive, c'est ça?
Moi, je t'avais dit vécu, je crois.
Oui, mais on n'était pas d'accord avec ce
que tu disais. On n'était pas d'accord, oui.
Il a retenu avec quoi? Il était d'accord, lui.
Oui, parce que...
Normal.
Voilà.
La conscience.
Donc le...
Quand tu mets de la conscience dans la kavana...
Alors, la première... Bon. Ça, c'est le niveau de tzadikim. Le niveau de tzadikim, comme on l'avait expliqué dans Perek Zayin, chapitre 16, c'est Ahava, le Baal Teshuvah aussi, mais le Baal Teshuvah, il va atteindre ça que quelques instants de sa vie. Mais après, il va retomber comme tout le monde. Le tzadik, Le tzadik, il va rester à ce niveau-là toute sa vie. Il bouge pas. D'accord? C'est quoi le niveau du tzadik? Ahava Beta Anouim. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il aime Akadosh Baruch Hu, et ça devient un kiff. Ça devient un plaisir.
Ah oui, mais alors, on n'est pas d'accord avec ce qu'on avait dit avant. Je me
ça veut dire quoi?
On avait dit que là, il y a l'intérêt, là. Je me suis...
Non,
c'est pas
l'intérêt. Non, c'est pas par intérêt.
Ce qu'on avait vu, c'est il y a 10 chapitres, je crois.
Que quoi?
Non, mais c'est encore autre chose.
Le vrai lishma, ça, c'est Atsilut, c'est le grand tzadikim.
Voilà.
Ah,
oui ou non?
Ah. On a dit, ça, c'est les grands tzadikim. Ça, c'est Atsilut. On n'est pas dans Atsilut.
Atsilut est bien d'accord.
On n'est pas dans Atsilut.
Il n'y a même pas de leçon d'un.
Atsilut, il n'y a même pas ça. Quand on n'est pas dans Atsilut, on a Ahava Beta Anugim.
Voilà.
C'est-à-dire, celui qui est religieux, bah, au Hachem, tellement il kiffe sa religion que toutes les mitzvot qu'il fait.
C'est un kiffeur.
C'est devenu son kiff. C'est devenu son kiff. C'est-à-dire, tu lui demandes, c'est quoi ton kiff? Il dit, mon kiff. Mais là, c'est de faire les mitzvot. C'est ça ce qu'il kiffe. C'est fort. Il a réussi à se transformer. C'est-à-dire, il a réussi à faire que son envie, analysée, de la même manière que quand j'analyse mon envie analysée maintenant, c'est quoi? C'est que j'ai envie de bien manger. Son envie analysée à cette personne-là, c'est quoi? C'est d'aimer Akadosh Baruch Hu. Puisqu'il aime Akadosh Baruch Hu, il a envie de faire les mitzvot. Ou Michel Higia le Midazo, celui qui n'est pas arrivé à ce niveau-là, au niveau de Yaakov, l'itom mein olamaba, de goûter, de goûter le olamaba. Goûte le olamaba, tu peux nous faire goûter un petit peu.
Il a grimpé à l'échelle.
Ah ouais.
T'as David Sarno un petit peu, Raïn, hein, parce que...
Allez. Il faut alimenter la cavana.
Il faut voir ça comme ça.
Ne parle pas dans le téléphone, c'est moi qui te sers.
Wow.
Ah.
Conduis après.
Hein. C'est pas juste... ça sert à rien, Manny, il ne boira pas. Je veux dire, c'est gaspillage.
Ah, c'est bon.
C'est gaspillage, Manny. Je
vais être porte-parole, maintenant.
Mais tu vas voir, hein? Tu vas le voir. Vas-y.
Bon, t'as dit que ça devait être
le maximum.
Très bien. Mish le igal emidazo, celui qui n'est pas arrivé à ce niveau-là, l'itom einolamaba. Donc juste j'avance un petit peu, après je vais résumer. L'itom einolamaba, de goûter, mais einolamaba, de goûter comme l'olamaba. Et là, dain nafshosh kekautzme alashem vechalte alav kolayom. C'est une personne qui n'est pas arrivée à ce niveau-là, à ce niveau d'amour d'Akadosh Baruch Hu, beta anugim. Mais son âme est encore assoiffée. Donc là, c'est pas analysé, ça, là, c'est instinctif.
Non, mais en réalité, c'est le début de l'analyse.
Vekalta elav kolayom, ve'enomar ve'timono be'mea Torah shelefanav, areize kemi she'omet benar, ve'tsoek maimai. Là, Admor HaZaken va expliquer un pasouk très intéressant. Il y a un pasouk qui dit, pasouk que le prophète Isaïe, il dit, oi kol tsame lechou la maim. Que la soifée aille boire. C'est Yeshaya, Isaïe. Comment tu comprends ça, Jacob? Non, toi, c'est pas ton niveau, c'est le niveau d'en dessous.
Non, mais je
comment
que
tu vois ça?
C'est le début de l'analyse. Ça.
Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit que Oi Koltam et Lechou Lamaï? Une personne qui a soifé n'a qu'à boire de l'eau. C'est évident, celui qui a soifé. Qu'est-ce qu'il veut nous apprendre, le prophète, ici? Il dit comme ça. Arise, Kemiche Omed Benar, Vetsoek Maï Maï Mishtot.
C'est pour ça qu'il brûle.
Une personne, c'est comme si vous avez une personne qui est à côté d'un fleuve. Et qui est en train de crier, maïm, maïm, il dit, je veux de l'eau, mais on se dit, mais va boire, que moi je suis kovel à la navi, oi kol tsame le chula maïm, qu'il est fib chuto, ei no mouvan, a priori c'est pas compréhensible, de mi chou tsame ou mit avel il mode, si une personne a la soif d'apprendre, pshita chez il mode matmo, c'est évident qu'il va étudier. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire comme ça. On aurait pu répondre que quand le prophète dit, celui qui a la soif, il a qu'à boire de l'eau, on sait très bien que en maïm est la Torah, que l'eau c'est la Torah, donc ça veut dire celui qui a soif, c'est que sa neshama a soif, il a qu'à étudier la Torah. Mais c'est toujours évident. Qu'est-ce que vous nous apprenez ici? Pourquoi le Navi a besoin de lui crier, va prendre de l'eau? Seulement on est obligé de dire que le prophète ici ne parle pas d'une soif de Torah, le prophète ici parle d'une soif de divinité. Pas d'une personne qui a une soif de divinité, qui garde cette soif constante. Bon, alors là, à la fin, on est parti un petit peu, on a parlé de beaucoup de notions, je vais expliquer ce qu'on a dit ici. Qu'est-ce qu'il a expliqué ici Admon Razakan à la fin du Pérec? Razakan à la fin du Pérec explique quelque chose de très important. J'ai pas eu le temps de finir le résumé sur l'ordinateur, mais Ezrat Hashem, la semaine prochaine, on l'aura ce papier. Voilà.
Pas de composition.
Qu'est-ce qu'il a expliqué Admon Razakan ici? Admon Razakan ici a expliqué comme ça. Il a expliqué avec ça le concept qu'on a dit au début du Pérec même. On a dit que... Le Zohar nous dit que la kavana de Torah et Mitzvot sont considérées comme des ailes. On a expliqué qu'est-ce que ça veut dire, c'est quoi ce concept des ailes. Alors là, il a expliqué longuement l'Admon Razakan. Il a dit que de la même manière qu'on voit que les ailes d'un oiseau sont un bonus, sont en option chez l'oiseau. C'est pour ça que, Nitlu Agape Akshera, si les ailes de l'oiseau ont été enlevées, l'oiseau reste cachère. Pourquoi l'oiseau reste cachère? Parce que les ailes, c'est en option. De la même manière, Admon Razakan avec ça a conclu. Il a dit, ce que je suis en train d'expliquer maintenant ne va pas contredire tout ce que je t'ai expliqué dans le chapitre 36 et 37. Dans le chapitre 36 et 37, qu'est-ce qu'on a expliqué? On a expliqué que le Icar, c'est quoi?
C'est
la mitzvah. Qu'est-ce que ça veut dire dans notre exemple? Le Icar, c'est faire la mitzvah, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Icar, c'est le corps de l'oiseau. Le Icar, c'est de faire la mitzvah. Peu importe, tu comprends, tu comprends pas, tu ressens pas. C'est quoi le rôle de la kavana? Là, il a expliqué à Admon Razakan le concept de la contraction et du voile. Tzimtzum et Elem. Comme on a expliqué longuement. Que on peut avoir une personne qui a les deux, on peut avoir une personne qui a aucun des deux, et on peut avoir une personne qui a un des deux. Tzimtzum et Elem. Quand Akadosh Baruch Hu a créé le monde, on a expliqué dans le cours de la semaine dernière, que Akadosh Baruch Hu, quand il a créé le monde, notre monde où Olam Ashafel Bekol a pris note. C'est le monde qui est le plus bas possible dans tous les niveaux possibles. Ça veut dire que, et il y a la contraction, et il y a le voile. C'est pour ça qu'on a des éléments dans notre monde qui s'appellent Klipat Noga. Qui s'appellent Klipat Noga, c'est-à-dire des éléments neutres. Qu'est-ce qui se passe quand un juif va accomplir une mitzvah? Je vais prendre un élément matériel et je vais faire une mitzvah. Par exemple, je vais prendre ma bouche. Ma force de parler, c'est Klipat Noga. Je peux dire des bêtises, je peux dire des bonnes choses. D'accord? Avec ma parole, je vais dire des divrei Torah. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? La Klipat Noga qui peut avoir dans ma parole va partir. J'enlève le voile. Très bien. J'ai peut-être enlevé le voile, mais la contraction est restée. Comment j'enlève la contraction? J'enlève la contraction par la kavana. Et là, il a expliqué quelque chose d'intéressant. Il a conclu qu'on a deux types de kavana. C'est quoi les deux types de kavana qu'on a? On a la kavana qui est dans le monde de Yetzira. Et on a la kavana qui est dans le monde de Bria. Ça veut dire quoi? De manière générale, aimer et craindre Akadosh Baruch Hu, c'est une mitzvah en soi. Donc ça veut dire que ça fait partie du corps. Ça peut être un pied, ça peut être une tête, ça fait partie du corps. Qu'est-ce qui est l'aile? Quel élément dans cette mitzvah est l'aile? C'est quand j'utilise cet amour et cette crainte pour que ça soit mon moteur, c'est ça ce qui va animer les autres mitzvot. Et là, on va voir deux types de kavana. Deux types de kavana qu'on retrouve d'ailleurs, vous allez voir, dans notre vie, des fois on rentre dans une première catégorie, des fois on rentre dans une deuxième. C'est quoi les deux types? Un, c'est Beta Anugim, et l'autre, c'est Betsimaon. Première catégorie, c'est quoi? C'est quand j'utilise l'amour et la crainte, mais je n'ai plus la soif. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est une personne que tellement Baruch Hashem il a réfléchi, que maintenant il se sent bien, il nage, il se laisse aller. Dans
les eaux d'en haut.
D'accord? Il est dans son élément, exactement. Il nage, ça c'est le tzaddik. C'est le tzaddik, mais comme j'ai expliqué, nous aussi dans notre vie, le tzaddik il est constamment comme ça.
Ouais.
Mais nous aussi dans notre vie, on a quelques instants dans lesquels on est comme ça.
Plénitude.
Ça peut arriver par exemple à Rosh Hashanah ou à Kippour. Ça veut dire il y a des moments dans lesquels on sent qu'on est dans notre élément. On sent que ça c'est moi. C'est même pas une soif. Il y a des moments dans lesquels on se sent bien.
Plénitude.
Des fois, vous savez quand ça arrive, ça? Ça arrive des fois quand on est à proximité d'un grand tzaddik, d'un grand rav.
Il irradie.
C'est un moment dans lequel on se sent bien.
Ils sont radioactifs.
Je sais pas si vous avez déjà eu ce sentiment.
Oui, oui.
Il y a des moments dans lesquels on se sent bien. On n'est pas capable d'expliquer. Qu'est-ce que c'est quoi ce sentiment qu'on se sent bien? Ça, c'est le top niveau. Ça, c'est le niveau du Gan Eden. Ça, c'est la dimension du Gan Eden. La dimension du Gan Eden, c'est quoi? Ahava Beta Anugim. Et c'est pour ça que quand je suis dans cet état-là, toutes les mitzvot que je fais sont dans le même état d'esprit. un état d'esprit que je flotte. Je flotte, je suis en plein dedans, je baigne.
Je plane.
D'accord ? Je plane, Icar. Bon, comme il a dit.
J'ai retenu, hein.
Comme il a
dit. Très vite, c'est redoutable.
Comme il a dit ici.
Redoutable, faire très attention. Regardez un peu pour les cours suivants.
Ou Mich et le Iguia les Midazo. Maintenant, celui qui n'est pas arrivé à ce niveau-là. Comme nous, la majorité du temps, on rentre pas dans ce niveau-là. C'est-à-dire que bon, on a déjà du mal à avoir une soif. Toi, tu me dis, le gars, non seulement il est déjà passé le stade de la soif, il a déjà eu soif et il a déjà bu. Et maintenant, il est en train de flotter. Il est au fleuve, il est en train de flotter. Moi, j'ai...
Il est accro.
Nous, qu'est-ce qu'on est ? Comme le prophète a dit. Le prophète a dit, on est devant le fleuve quand on a cette soif. C'est déjà bien si on a cette soif. C'est quoi quand on a cette soif ? On est devant le fleuve et on dit, j'ai soif. Je suis devant le fleuve et je dis, j'ai soif. Ça veut dire quoi ?
Bon.
On te dit, mais descends, bois. C'est ça ce qu'il dit le prophète. Mais oh, écoute ça, mais le choulamaïm, allez boire. Qu'est-ce qu'il veut dire le prophète ici ? Le prophète ici veut dire comme ça. Il veut dire, en vérité, quand tu es en train de faire une Torah et mitzvot, tu vois, tu as soif. Tu dis, j'ai soif, j'ai envie de sentir Dieu. On te dit, mais t'as de l'eau en face de toi. C'est quoi l'eau ? L'eau, c'est la Torah et les mitzvot. C'est ça l'eau.
D'accord.
Seulement, c'est quoi notre problème ? Pourquoi le prophète a besoin de me dire, va boire de l'eau ? Tout le monde sait, celui qui a soif va boire de l'eau. Parce que comme on vit dans un monde en deux dimensions, donc on ne se rend pas compte que dans ce livre qui est en papier, je peux trouver la solution à ma soif. Je dis, non, c'est du papier ça. Ça c'est matériel. Moi je veux, j'ai soif. Je veux boire. C'est pour ça que le prophète il dit, bien que toi tu vis dans un monde deux dimensions, et que tu ne te rends pas compte. Tu ne te rends pas compte que ta soif peut être désaltérée par la Torah et par les mitzvot. C'est pour ça que moi le prophète, je viens te dire, oi kol tsameh l'chulamaim, allez boire de l'eau. Ça c'est la kavana de bas niveau. C'est quoi cette kavana de bas niveau ? C'est pas Ahava Beta Anugim, c'est pas l'amour de celui qui est déjà en train de kiffer, c'est l'amour de celui qui a la soif. Et celui qui a la soif, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que tu lui donnes à boire, mais il sent pas qu'il est désaltéré. Pourquoi il sent pas qu'il est désaltéré ? Parce qu'il vit encore dans le monde de dimensions. Comme il vit dans le monde de dimensions, donc il voit pas comment il est désaltéré.
Mais ce niveau-là,
et c'est pour ça que cette personne-là, le prophète, et ça peut durer toute une vie, le prophète, ou son rave, a besoin constamment de l'encourager, de lui dire continue, continue. Ça veut dire que vous pouvez avoir des gens que toute leur vie, ils sont dans cette soif-là.
D'accord.
Toute leur vie, ils sentent qu'il leur manque quelque chose. Ils étudient, ils font des mitzvot, et ils sentent qu'il leur manque quelque chose. Il me manque quelque chose, j'arrive pas. Pourquoi ils sentent qu'il leur manque quelque chose ? Parce qu'ils sont à ce deuxième niveau-là.
Et pourquoi ?
Comme ça. C'est leur Alvaï, nous, qu'on arrive à ce niveau-là. Nous, en général, on est en bas, on est bloqué en bas, nous, on est des oiseaux sans ailes.
Mais non, puisque tu fais quand même les... des fois, t'as les cabanes, quand même, non ?
Peut-être.
Alors, pourquoi tu dis que t'es sans ailes, alors ?
La majorité des mitzvot qu'on fait, c'est sans ailes. Alvaï, enfin je sais pas, peut-être que... Encore une fois,
Non, arrête de parler de Pierre-Paul ou Jacques, mais... Non.
Sans elle, tu fais des mitzvot sans elle ou pas ?
Tout ce que tu dis, c'est que...
La majorité des mitzvot...
Toujours avec elle.
La majorité des mitzvot qu'on fait aujourd'hui, c'est par routine. Par routine.
D'accord.
J'ai l'habitude toujours de donner cet exemple. Comment c'est possible que quand je fais la Amida, ce soir, je risque, enfin j'ai pas encore fait l'arbitre, mais comment c'est possible que quand je fais l'arbitre ce soir de Rosh Chodesh, je risque d'oublier y aller Veillavo. Ça c'est un exemple toujours qui me frappe. Impossible normalement. C'est pas possible.
Ça n'a rien à voir avec les
Si t'es en train de visiter un palais, on te dit maintenant aujourd'hui c'est un jour spécial, sale. Oui. Il y a une sale aujourd'hui.
Oui.
Les soldes.
Oui.
Tu vas le rater les soldes ?
Oui, mais on avait dit que
non, tu vas pas rater.
Alors ?
On avait dit que le Yetzara, il s'amène à ce point-là.
C'est quoi ? Très bien. Alors ça change pas.
Et non, mais au départ, tu l'as, cette envie de faire avoir la cavana.
Bah.
Le Yetzer Hara, il arrive, ah, il te met une force équivalente à ta cavana. Bon, ça peut être
bien, c'est-à-dire que toi, il y a quand tu arrives à un niveau que tu veux faire, et que quand tu arrives au moment où il faut faire, c'est bloqué. Il y a non, des gens qui, même pas, ils veulent faire.
C'est pas ça que je posais, comme ça.
Mais on n'est pas au lieu de ta
main. Non, mais la question que je posais, c'est, celui qui a la soif de divinité, il voit pas qu'en buvant, c'est-à-dire en faisant des mitzvot, en utilisant la Torah, et cette soif, elle va partir.
Elle partira pas, cette soif.
Il aura le plaisir
des
eaux d'en haut. Parce qu'il y a des eaux d'en haut et d'en bas.
Elle partira pas. La soif.
Qu'est-ce qui fait qu'elle partira pas ?
Il faut bien comprendre ce qu'il dit l'Admor HaZaken ici. Cette soif, c'est possible qu'elle partira jamais.
Mais pourquoi ?
C'est comme ça.
De quoi ?
Parce que la personne, il y a des gens qui arrivent à monter au monde de Yetira. D'accord ? De Bria, pardon. Et des gens qui peuvent pas monter au monde de Bria. Celui qui arrive au monde de Yetira, il sera constamment en soif. C'est-à-dire que constamment, même quand il arrivera à développer un sentiment d'amour vers Akadosh Baruch Hu, constamment il sent qu'il manque quelque chose. Je ne sais pas si vous avez déjà eu ce sentiment. Sentiment qu'on a toujours envie de faire plus. Ça peut s'exprimer dans le spirituel, ça peut s'exprimer dans le matériel. Des fois on aime quelque chose, on sent toujours envie qu'on veut faire plus, on veut faire plus. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas encore arrivé au niveau de Ahava Beta Anugim, qui est que maintenant je suis arrivé à la vitesse de croisière et je me sens bien. Donc on a deux niveaux. Bien entendu, ça c'est les deux niveaux de Kavana. Le niveau d'en dessous, c'est quoi, hein? Le niveau d'en dessous, c'est celui qui n'a pas de kavana. Et là, dans ça, on avait expliqué il y a 3 semaines qu'il y a 2 types. Il y a celui qui fait...
Par intérêt. Sam. Ouais, par habitude.
Par habitude.
Et par intérêt.
Là, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on avait dit? Vous rappelez ce qu'on avait dit à la fin du Pérec, la tête. Il suffit qu'il fasse une fois, c'est très fort, ça. Il suffit qu'il fasse une fois avec kavana et pfft, ça redémarre. Ça, c'est très fort. Mais d'un autre côté, on peut avoir celui qui va étudier par intérêt. Il va étudier pour avoir des connaissances. Il n'y a pas de mitzvah d'avoir des connaissances. Ouais. Il n'y a pas de mitzvah de devenir Talmid Chacham. Quelqu'un va étudier pour devenir Talmid Chacham. Ou bien moi, je vais donner un cours maintenant. Pardon ?
C'est
mieux de comprendre la Kadosh Baruch Hu.
D'étudier pour comprendre.
Très bien. Voilà. Si j'étudie pour comprendre la Kadosh Baruch Hu, c'est une
chose. Pour connaître, pour savoir.
Très bien, pour connaître Hachem.
Voilà. Mais celui pour être...
Pas pour savoir quoi. Ça, pour savoir...
Il y a des gens... Non, il y a des... Très souvent, quand on lit des livres, c'est par curiosité intellectuelle. Ça veut dire que de la même manière que je relis un autre livre d'une autre culture, je peux lire aussi un livre de Torah par curiosité intellectuelle. C'est très possible.
Je dirais même que... Celui qui s'intéresse à la Torah, il a plus envie de lire les autres livres en principe.
Oui, mais je peux étudier la Torah en tant que curiosité intellectuelle, c'est possible, c'est très possible.
Ouais. Bon, d'accord.
Il n'y a pas de problème avec ça. Là, dans ce cas-là, c'est par intérêt. Quand c'est par intérêt, c'est plus compliqué.
Genre, tu les choix, ils sont comme ça.
Ils étaient comment ?
Comme ça, beaucoup de gens qui sont sortis de la Shoah, ils étaient comme ça.
Ça veut dire quoi, comme ça, ils étaient...
Les gens qui avaient étudié quand ils étaient jeunes, comme... comment ils s'appellent ?
Les Zelles.
Ouais. Ils racontaient, ils disaient... Le plaisir que j'ai d'étudier, je ne peux pas m'enlever. Mais je n'étudie plus pour le limousin. J'étudie parce que...
C'est un plaisir intellectuel. Voilà.
Donc, je disais, on fumait le cigare, Shabbat, et on lisait, on faisait Gemara.
Ce que tu appelles intellectuel.
Oui, comment il s'appelle? Weissman.
Non, mais même Zizel dit, je me rappelle.
Il allumait avant Shabbat.
Non, pendant Shabbat, il fumait le cigare, et il faisait la Gemara. C'était un kiff qu'ils avaient de jeunesse, qu'ils ne peuvent pas retrouver ailleurs. Et donc, pour le plaisir intellectuel.
Ça, je peux comprendre. Hein. C'est bon.
Non, vraiment, un limousin pour le kiff.
Je vais vous dire plus que ça.
C'est incroyable.
Vous savez, ça peut aller très très loin, ce concept de kiff.
Non, pas du tout.
C'est que, même dans la tfila, on peut retrouver ce concept-là. On peut retrouver ce concept-là, que je vais faire la tfila, je vais réfléchir à la tfila, mais c'est comme si je vais étudier un poème. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que je vais comprendre le mot de la tfila, mais ça va pas me parler. C'est comme si je suis en train de lire un roman. C'est-à-dire, je me rends pas compte de ce que je suis en train de dire. Je vous donne un exemple, par exemple. Je lis dans la tfila, Refaenu à la Mida, Refaenu Hachem Vénérafé. Guéris-nous Hachem. Je peux comprendre la traduction de ce que je suis en train de lire. Mais je ne réalise pas que je suis en train de parler, je demande à Dieu, Dieu, guéris-moi. Je fais pas attention. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, je suis ailleurs.
Oui,
c'est pour ça que, bon. Donc on peut facilement, quand c'est pour ça que je dis, on peut facilement croire qu'on a la kavana, mais on n'a pas la kavana. C'est très très dur d'avoir une vraie kavana.
Je crois pas.
Hein. Surtout qu'on a dit que les
Sarais. Je ne crois pas que c'est facile.
Il arrive à ce moment-là.
Non, parce que tu penses que c'est facile comme ça. Tout à l'heure, tu nous fais croire.
Moi, je sais le comprendre par rapport à.
Oui.
Celui qui fait la prière, mais qui ne comprend pas ce qu'il y a, ce qu'il a fait avec sa kavana lui. Mais il ne comprend pas ce qu'il y a.
Oui.
Parce qu'il ne connaît pas la traduction.
D'après ce qu'on a expliqué, il peut monter encore plus haut que celui qui connaît. Parce qu'il lui il monte, il n'est pas bloqué en bas, il peut monter, il a les ailes. Mais, bien entendu, attention, celui qui a les connaissances, le jour où il réussit à décoller, c'est la fusée.
Là, c'est 50
il est emmagasiné.
C'est 50 poules en même temps.
C'est-à-dire qu'il dépasse l'autre de loin, d'un coup il dépasse.
Ouais.
Mais il peut rester. Des fois il faut attendre le prochain qui coule pour ce coup.
Ouais.
C'est ça le problème.
Il faut pas rater le train.
Alors on va faire la Haga.
Alors la Haga, elle est.
Un Haga très très costaud.
Ah ouais.
Alors, je vous préviens, c'est kabbalistique. Hein.
Bon, c'est kabbalistique. Encore, on n'est pas venu
pour... Adonf.
Pas de la poésie, hein.
Quand, déjà, le Tania, c'est assez compliqué. Quand l'Admor Hazakel met des choses dans une note, c'est les choses qui disent, bon, ça c'est trop compliqué, je ne veux pas trop vous compliquer, je les mets de côté. C'est pour ça que j'attends la fin pour les faire. Alors, l'Haga.
L'Haga, allons-y.
On va essayer de comprendre ce qu'on pourra.
Allez.
Donc, Vesham. Première Haga, c'est juste à côté de l'endroit où on a démarré. Donc c'était page...
Nune.
Vesham. Donc de quoi on parlait quand on disait Vesham? Quand on disait Vesham, on parlait d'une... c'était quand l'Admor Hazaken était en train d'expliquer que quand Akadosh Baruch Hu a créé le monde ici-bas, le monde est limité dans les deux plans. Il est limité sur le plan du Tzimtzum, sur le plan du Elem. Sur le plan de la contraction et sur le plan du voile. Et que quand j'étudie la Torah, même si je suis sans kavana, ou quand je fais une mitzvah, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? À ce moment-là, expliquer, ce qui se passe, c'est que j'enlève le voile, je dévoile. Très bien. Mais il reste toujours la contraction. Il reste toujours la contraction. La contraction, c'est quelque chose qui sera visible, a priori, en bas.
Des hyper, oui.
La contraction, dans le monde de la SIA, c'est impossible de voir. On est en 2D. C'est impossible de voir.
2D, 3D,
on pourra voir seulement quand ma chair va venir. La seule chose qu'on peut faire, quand on est encore ici, c'est de monter dans le monde c'est de monter dans un monde plus haut. Que là-bas, on est déjà en 3D. Mais dans le monde de la SIA, dans le monde ici-bas,
2D.
C'est impossible. 2D. On explique là-dedans à Zakel. Donc, on avait dit que quand ma chair viendra, c'est là qu'on passera en 3D. Pour reprendre mon exemple. Vesham. Oui, ou peut-être même plus, exactement. Aujourd'hui, on est limité en 3 dimensions, mais on sait qu'il y a beaucoup plus que 3 dimensions.
Non, on est déjà en 4.
On est déjà en 4
ouais, on est déjà. Comment? Le temps et la 4e dimension.
Ah oui, d'accord. Mais
c'est la 5e, voilà. 5e dimension. Et il y a les Américains, ils l'ont inventé.
Il l'a inventé, ça y est. Vesham. Meir Umidgal et Gamken, à Ihuda Elion, à Nase, là-bas, hein, c'est où là-bas? Quand on dit là-bas, c'est-à-dire là-bas dans les mondes supérieurs. Le monde de Yetira, le monde de Bria, pas en bas. Quand on dit les mondes, c'est-à-dire les dimensions spirituelles qu'on peut atteindre, ces dimensions qu'on peut atteindre quand on fait une mitzvah avec Kavana, avec les deux types de Kavana que je dis, on a trouvé le bon mot aujourd'hui, la Kavana assoiffée ou la Kavana désaltérée.
Ah.
Vesham est là-bas. Meir umidgal et gamkana ichuda elyon anase b'chol mitzvah v'talmud Torah shehu ichud midot avidbarer venimtakot agvurot bechassadim. Explique comme ça, Admor HaZaken. Dit que, qu'est-ce qui se passe quand on fait une mitzvah? Nous, ici, quand on fait une mitzvah en bas, hein, on voit pas quel est l'impact d'une mitzvah. Ça veut dire, je ne sais pas ici pourquoi, quelle est la différence que je fais entre les tefilines et une mezouza. Si je vous pose la question, quelle différence va se faire dans la réalité qu'on va créer dans le monde avec tefilines et mezouza? La réponse, ça va être, je ne sais pas. Je peux t'expliquer la halakhot, je peux t'expliquer ce que tu veux, mais la différence dans la réalité qui va être créée par tefilin et mezouza, je ne connais pas la différence. Là-bas, hein, dans le monde de Yetira, dans le monde de Bria, là-bas, on voit la différence. C'est pas mal qu'une histoire que j'ai racontée tout à l'heure du Baal Shem Tov. Que les mêmes tehilim qu'on voyait en bas, il suffit de s'élever à une dimension un peu plus haute, et là, on découvre d'autres choses. Morazaken, ici, il dit un autre point qui est ramené très souvent dans le Zohar, il dit « Venim takot agvurot bechassadim ». Nimtakot Agvurot Bechassadim, c'est le concept que dit que la Gvura, la sévérité,
la rigueur,
est adoucie par les Chassadim, par la bonté. Ça vous dit quelque chose cette phrase-là? Vous savez quand on prend le jour de Hoshana Rabba, c'est quoi la phrase qu'on dit Hoshana Rabba? Chavit, Chavit, Velovarir?
Chavit,
Chavit, Velovarir. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait avec ces... C'est quoi ces cinq... On en prend 5, c'est ça, chez Sfaradim aussi, on prend 5. C'est quoi ce concept de 5?
À la fin de la fête, alors.
C'est quoi ces 5-là?
On t'apporte ça?
Alors, c'est quoi ces 5-là? Ces 5, ça correspond, le Zohar explique, à Hegvurot. Ça correspond à 5 attributs de la sévérité. Il donne le Zohar dans le détail, dans la sévérité, il y a 5 détails.
Oui, c'est ça.
Et qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Regardez bien ce qu'on fait, qu'est-ce qu'il dit le Zohar. Le Zohar dit que quand on fait Hoshana Rabba, qu'on sait très bien qu'Hoshana Rabba, c'est un jour très important, parce qu'Hoshana Rabba, on scelle le jugement. C'est là qu'on scelle le jugement de Yom Kippour. Qu'est-ce qu'on fait au Hoshana Rabba? On va être mematek chassadim bigvurot. On va adoucir la bonté par la sévérité. Ça veut dire comme ça. C'est-à-dire que nous, quand on est en bas ici, tout est défini. Il y a ce qui est positif, il y a ce qui est négatif. Donc c'est pour ça que vous pouvez avoir des gens qui vont vous dire « Moi, j'aime bien les misotes positives. Les misotes négatives, ça m'intéresse pas. » C'est pour ça que l'Admor HaZaken te dit ici qu'en haut, dès qu'on arrive à une dimension plus haute, dimension spirituelle qui est Yetira et Bria, là, on comprend que ce concept de positif et négatif n'existe pas vraiment. Puisque le positif peut devenir négatif et le négatif peut devenir positif. C'est-à-dire que les deux travaillent l'un dans l'autre. C'est le concept de Metikut Agvurot Bachasadim. D'accord? Que la Gvura va s'adoucir par le Chassadim. Bon, ça c'est en plein Kabbalah. Allez-dé Edrason Elyon, Ensavaochum, Ameir ou Mitgal, et du Prinat Gilui Rav Veatsum Beitarota Diltata, Yassi Ata Mitzvah Oesek Atora, Shebahen Melubash, Ratson Elyon, Ensavaochum. Comment ça va se passer ça? Alors ça, ce qui est intéressant. Le Rav Sendlas donne un exemple très intéressant ici. Il dit qu'en vérité, en haut, ils ont pas la possibilité d'innover. En haut, ils ont la possibilité seulement de voir ce qui se passe. Il donne un exemple très simple. Il dit, c'est comme vous avez des gens qui sont capables d'analyser des images satellites. Vous avez déjà vu des images satellites? Dans une image satellite, a priori, on n'a pas de manière de voir si un immeuble est plus haut qu'un autre. J'ai pas de moyen de savoir si un immeuble fait 5 étages ou 100 étages. C'est une image satellite, ça vient d'en haut. Ceux qui savent analyser les images satellites, ils ont des techniques, ils ont des méthodes, pour être capable, par l'ombre, etc., pour être capable d'analyser, d'accord, ça veut dire ils ne vivent pas dedans. Ils voient d'en haut, mais ils sont capables d'analyser est-ce que l'immeuble est haut, est-ce que l'immeuble n'est pas haut. C'est la même chose. Quand on est en haut, vous rappelez ce que j'ai dit la semaine dernière, on a dit que le Rabbi Levi Trak de Verditch avait dit si on avait amené un...
L'image satellite.
Ah, l'image satellite. Google Maps.
Google.
D'accord.
Earth.
C'est Earth. Et... Ah oui, c'est l'iPhone, il y a Earth maintenant. Qu'est-ce qu'il dit, le Rabbi Levitrak de Berditchev? Rabbi Levitrak de Berditchev avait dit, on a dit la semaine dernière, que si on avait amené une paire de titites au Gan Eden, qu'est-ce qui serait passé, Jacob?
Ils auraient mis le feu.
Tout le Gan Eden aurait brûlé.
Ils auraient mis le feu.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, il aurait brûlé? Ça veut dire qu'encore une fois, en haut, ils sont capables seulement d'analyser les images satellites. C'est-à-dire, en haut, ils voient comment en bas on a des grands immeubles, ils voient comment on fait, mais nous, on voit pas ce qu'on fait en bas. Il n'y a que eux en haut qui peuvent nous dire, voilà ce que vous faites. C'est ce qu'il dit ici. Allez, dès être à Sanel et notre Savaro, à Meir ou Midgale, Vrinat, Gilou, Rav, et Atsumita, ou Tadiltata, Yassi, et Amisa, ou Sekatora, Shebahen, Melubash, Ratsanel et notre Savaro. En haut, ils sont capables d'analyser ce qui se passe en bas, grâce au fait qu'on va étudier la Torah et qu'on va faire des mitzvot, ce qu'on appelle dans le langage du Zohar le réveil d'en bas, itaruta,
tata, les tata.
Ah, ikara yichud le mal à mal à bol à mal.
C'est
ça que je parle.
Et ouais, c'est pour ça. C'est des tata.
Faire des traductions.
Et oui.
Ah, justement.
Rapidement comme ça,
suppressivement.
Le Shabbat, ça s'appelle un réveil d'en bas.
Justement, c'est ce qu'il dit le.
Ah bien sûr, c'est un réveil.
D'en haut aussi.
Le Shabbat, c'est le réveil d'en haut qui vient à la suite du réveil d'en bas.
Après, le réveil d'en bas.
Non, parce que c'est un peu facile de faire des courses.
Ah, ikara yichud, le mal à mal à bol à matzilut. Shesham ou maout vatsmout, midot avit barer, meyuchadot be matzil anan savaruchu, vesham ou maout vatsmout, ratan anan savaruchu, veraka ratan levad, ime ira bivrea yetirassia, bechol alaman le fimalato. Là, explique l'admor Hazaken, il faut savoir que, dans la note, encore une fois. Enfin, tout ça, c'est pas grave. Si vous comprenez pas la gaz, c'est pas grave. Il faut comprendre ce qu'on peut. Mais bon, c'est l'antania, il faut le lire. Donc, l'Admor Hazaken... Qu'est-ce qu'il explique, l'Admor Hazaken? L'Admor Hazaken dit que, en vérité, le seul monde, le seul niveau, tu comprends pour nous tous, Yacob, ok? Tu nous rends quitte. Le seul niveau dans lequel on peut dire que qui est réellement uni avec Akadosh Baruch Hu, et que là-bas, vraiment, on peut dire qu'on sent ce qui se passe en bas, dans mon exemple des images satellites, ça veut dire le seul endroit où on est capable de vraiment analyser les images satellites, c'est où? C'est que dans l'Olam Atzilut. C'est que dans le monde d'Atzilut, le monde des grands tzadikim.
C'est qu'il faut prendre de la hauteur.
Voilà. Plus on prend de la hauteur, mieux on est.
Oui, parce qu'Atzilut,
c'est... C'est ça ce qu'on a expliqué. Qu'est-ce qui crée les dimensions? Qu'est-ce qui fait qu'on devient plus bas et plus bas? C'est les contractions et le voile.
Il n'y a pas de voile.
Mikol Makom. Aré Ratson, Alion, Amelubaj, Mitvazo, Voudvar, Vehu, Hu, Advar, Alacha, Vatora, Shosekbo. Ou Eloku, Dvaransa, Vahu, Amatilim, Shehur, Sonoichad. Mais là, c'est ce qu'explique Admor Hazaken. Il dit, même si, les seules personnes qui peuvent réellement analyser l'image satellite, c'est seulement les grands tzadikim. Et c'est pour ça que toujours il faut aller voir les tzadikim. C'est pour ça qu'on lui dit qu'il faut toujours s'attacher à des tzadikim. Mais ça ne change pas pour autant que même si je ne suis pas conscient de ce que je suis en train de faire, ça ne change pas que la réalité est créée par nous. Comme il dit ici, Hu Advar Alacha va Torah Shosekbo. La Alacha et la Torah que je suis en train d'étudier, c'est ça la réalité, c'est ça l'immeuble. Ah, je ne vois pas l'image satellite, ok, tu ne vois pas. Mais c'est ça l'immeuble. C'est moi qui est en train de créer ça. Ou pire tsonoid barer, et s'il mit de taille miuchadot boit barer, va les dégiluir tsona mitgale et des sakatora mitzvazo, et michlalot de bezo, venimta kotakvurot de chassadim, beit ratsonzo. Donc qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est-à-dire, en d'autres termes, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que quand un juif est en train de faire une mitzvah, c'est un aide ratson. C'est un moment propice. C'est un moment propice pour Akadosh Baruch Hu. Et c'est un moment propice, qu'est-ce qui se passe dans ce moment propice? C'est un moment propice pour que là, à ce moment-là, les tzadikim, quand ils sont en haut, ils analysent les images satellites. Et quand ils analysent les images satellites, ils se disent, dommage, si lui ferait ça, lui ferait ça, ils auraient fait quelque chose d'extraordinaire. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que quand un juif fait une mitzvah, c'est un moment qui est propice pour que Akadosh Baruch Hu, des fois, il nous envoie des coups de pouce dans la tête. Il nous dit, tu vas faire ta mitzvah, rajoute un peu de kavana dans ta mitzvah. Maintenant, moi, je sais pas pourquoi je vais rajouter de la kavana. Donc, très intéressant ce qu'il dit le Zaket, vous voyez sur le Zohar. Ça nous arrive des fois, hein, on fait une mitzvah. Et tout d'un coup, je me dis, tiens, j'ai envie de rajouter de la kavana. Pourquoi tout d'un coup, j'ai envie de rajouter de la kavana? On avait expliqué que des fois, ça peut être parce que j'ai un proche à moi, par exemple, qui a pensé en haut. Bon, ça peut être ça, mais ça peut être aussi autre chose.
Oui, vous, le premier niveau.
Ça peut être, on peut avoir un nouveau concept qui est la même ici, un concept très intéressant, le concept du Ed Ratson. Des fois, les tzadikis, quand ils analysent l'image satellite d'en haut, ils disent c'est dommage. S'il y avait un tel et un tel qui aurait fait ça en même temps, ça aurait fait quelque chose d'extraordinaire. Mais eux, ils ne savent pas. Qu'est-ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu? Akadosh Baruch Hu, quand il fait le Hadratson, c'est quoi le Hadratson? Akadosh Baruch Hu, il fait que quand la personne va faire la mitzvah, il va lui dire, il va lui mettre un esprit dans sa tête qui va lui dire, peut-être aujourd'hui tu rajoutes un petit peu de kavana. Pourquoi? Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Parce que Akadosh Baruch Hu, comme c'est un Edraton, donc il va aider l'image satellite à se compléter. Il va nous aider à arriver au Tachlit, au but qu'on avait expliqué dans le chapitre 36 de Dira Betartoni. Donc ça, c'était une première note. On a une deuxième note, et je finis avec ça. Je finis comme ça, on finit le Perek. Au Betikoun, là vraiment, alors si la première note était Zohar, la deuxième note est... Vous écrivez les rachetés votes. Là, la deuxième, c'est du Zohar big time. On parlait des oiseaux. Vous vous rappelez ce qu'on avait dit sur les oiseaux? On avait dit que le Zohar dit que quand on fait une mitzvah sans kavana, c'est comparé à des oisillons, pas des oisillons, on a dit des poussins. Des poussins qui ne peuvent pas voler. C'est-à-dire le poussin est là, le poussin est vivant. D'accord? Il est cachère. On peut faire un corban avec le poussin.
Pourquoi dans le premier cas, il parle d'enfant?
Mais il peut pas voler.
Premier cas, il parle d'enfant. Et deuxième cas, il parle d'oisillons sans ailes. C'est-à-dire pourquoi le changement de langage?
Parce que quand il y a un enfant, c'est-à-dire que la mitzvah, et la mitzvah qu'on va faire avec la kavana, ça va être l'enfant de la kavana. Il va venir avec c'est le concept, il va être animé par le moteur de l'amour et de la crainte. Je referme la parenthèse. Donc, ouvé tikkun nemé. Alors, suite à ce qu'on a expliqué, que sans les ailes, on peut pas voler, Morazaken ramène autre chose. Là, on passe en plein Zohar. Le Zohar, tikkun nemé, dans tikkun et Zohar, il y a une section dans le Zohar qui s'appelle Tikkun et Zohar, chapitre 45. Voilà, pour ceux qui veulent ce soir, ceux qui ont du mal à... Si vous n'arrivez pas à vous endormir, vous ouvrez le Zohar, Tikkun et Zohar, Perek Vemé. Car si ceux qui ont le Zohar en 3 tomes, c'est dans le 2e tome. Donc, ou Tikkun Memé, il explique là-bas. Des Ofa ou Matat. Ça vous dit quelque chose, Matat? Matat. Yaakov.
Matat, non.
Alors, il dit comme ça. Il dit l'oiseau. Qu'est-ce que c'est le concept de l'oiseau? C'est un malach qui s'appelle Matat. Matat, d'accord?
C'est l'abréviation.
C'est l'abréviation de?
Ah, celui-là.
C'est l'abréviation de quoi?
Même tête.
Même tête tout noir.
Quoi?
Même tête tout noir.
Alors, même... Il explique ici tout de suite, d'accord? Reisha Dile, il dit comme ça. Il dit que dans Tikkun Mamé, il explique que ce niveau des oiseaux-là, c'est Matat. Reisha Dile, la tête de cet oiseau-là, c'est le Yud. Vegufa et son corps, c'est le Vav. Ou Tren Gatfin, et ses deux ailes, Hehe. C'est les deux lettres qui sont, et ça fait Yud Ke Vav Ke, ça fait Matat. Comment on arrive à Matat? Yud Ke Vav Ke, Matat.
Ah, on fait en.
Attends deux secondes,
je sais moi, Adbash.
Non, c'est pas du Adbash. J'ai oublié quelques. Non.
Si, parce que le.
Je sais que Matat, c'est l'équivalent du Yud-Kevavke, mais j'ai oublié comment.
C'est bon?
C'est une.
Le Yud est le même, c'est. Si, le Yud est le même, rappelle-toi.
Complet.
Le Yud est le même, c'est Adbash.
Je crois que c'était avec le Miloui. Ça veut dire qu'il fallait remplir les lettres, il y avait un truc.
Bon.
D'accord.
On verra après le cours.
Alors.
Adbash.
C'est Goufa. Bon, peu importe. Vaïnou, ça veut dire. Ola Mayetira Shenikra Matat, en Goufé à la Khoch de Mishnah. Explique comme ça. Dit que le monde de Yetira qui est appelé Matat, Mgoufé à la Khoch de Mishnah, ça c'est à la Khoch qu'on a dans la Mishnah. Ça c'est le monde de Yetira. Là ça va être intéressant. Pourquoi? Non, c'est intéressant parce que ça a l'air compliqué, mais en vérité, on apprend quelque chose de nouveau avec ça. C'est qu'en vérité, ce concept des dimensions que j'ai expliqué, qu'on a expliqué jusqu'à maintenant, que en vérité c'est le même élément, mais ça dépend dans quelle dimension on le regarde. On a dit les atomes, pas les photons, à chaque fois j'oublie le nom.
Les quarks,
d'accord? C'est le même élément, mais ça dépend avec quelle lunette tu le regardes. Les quarks. Alors, de la même manière, il explique ce qui est intéressant, c'est qu'il explique que c'est pour ça qu'on voit des fois le même sujet, qui est expliqué différemment dans la Mishnah. On descend dans la Gemara, des fois on explique autrement. D'accord? Mishnah et Gemara. Et après on va dans le Zohar, après on peut aller aussi dans le Pshut Shel Mikra, ça veut dire dans le Chumash. Et chaque fois on a l'impression des fois qu'on parle des mêmes sujets, mais que ça prend une autre forme. Pourquoi? Le même concept de dimension. Exactement le même concept de dimension. D'accord? Donc, M. Goufa la Chot ve Mishnah. Olam Hayetzira, c'est quoi? La Mishnah, c'est le Olam Hayetzira. Vereisha dile em amorin ou prinat chokma binadat she'em plimiyuta alachot ve'solam ve'tamen. C'est quoi la tête? C'est quoi le yud? Le yud c'est quoi? Le yud c'est atzilut. Ça correspond le sod qui est derrière l'alacha.
Bien sûr.
Comme ce qu'on a expliqué.
La pointe du yud,
on a expliqué que le Baal Shem Tov dans sa yeshiva, on avait expliqué il y a pas longtemps que le Baal Shem Tov dans sa yeshiva quand il étudiait l'alachot, après avoir étudié l'alachot dans la Gemara, il leur a expliqué. Il dit maintenant je vais vous expliquer spirituellement c'est quoi le dialogue. Et il leur refait toute la Gemara. Rava, Ravashi, Ravina, pas, il leur répète tout. Mais il leur montre comment, en vérité, c'est un dialogue qui se passe en haut. Parce que c'est les dimensions. Ou Tren Gatfin, Et c'est quoi les deux ailes? Trilou chimou en heilaa vehetata. Iratata. C'est quoi les deux ailes? Les deux ailes, c'est le hé d'en haut et le hé d'en bas.
Voilà.
Ça, on l'a vu. Ou pachad Hashem, donc que ça correspond à quoi? Ol malchut shamaim, ou pachad Hashem, ke pachad amena deech machal, shenira chitulé veniglit. On avait expliqué donc, il y a quelques chapitres qu'il y a la crainte d'en haut et la crainte d'en bas. Quoi la différence entre la crainte d'en haut et la crainte d'en bas? La crainte d'en bas, c'est quand on a peur d'Akadosh Baruch Hu comme on a peur de quelqu'un. J'ai peur de quelqu'un avec un flingue. Et la peur d'en haut, c'est quoi? C'est la crainte révérentielle. Pareil. Ça, c'est vraiment zoharique, hein. Donc, il y a le hé d'en haut, le hé d'en bas. Ça correspond à quoi? Ça correspond à l'amour d'en haut, l'amour d'en bas. Et la crainte d'en haut, la crainte d'en bas. Ça veut dire quoi? On a l'amour enfantin et la crainte enfantine. Et de l'autre côté, on a l'amour, l'amour bêta anugim. Ça veut dire qu'on est en train de baigner, comme c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Et la crainte révérentielle. Je referme la parenthèse. Donc ça, c'est une parenthèse que Admor HaZaken a ouvert pour expliquer que le concept qu'on a expliqué des dimensions, et que le concept qu'on a expliqué des dimensions, qu'on a expliqué que sans les ailes, la Torah et Mitzvot ne pouvait pas voler, ce concept-là existe aussi dans le spectre, enfin, si on peut appeler comme ça, qui existe dans la Torah et Mitzvot. On a la Mishnah, on a la Gemara, on a le Sod, on a le Chumash. Et ce que veut expliquer Admor HaZaken, c'est que des fois, la Gemara qu'on a fait, elle pourra pas décoller si on n'aura pas fait le sod qui apparaît derrière. Très intéressant. Pourquoi? Parce que le même concept, il ramène du Zohar, le même concept qu'on a expliqué de Yud, qui est des ailes, qui a l'oiseau, il y a les ailes, ce même concept est valable sur la Torah, sur les dimensions de la Torah. Que je peux y avoir étudié quelque chose, mais ça reste limité, il faut l'avoir étudié dans le sod pour que ça monte. Je m'arrête ici pour aujourd'hui, voilà.
C'est pas systématique.
Ce qu'il faut retenir d'aujourd'hui, c'est que la Kavana, c'est les ailes, d'accord? Que grâce aux ailes, on peut monter. Bezrat Hashem, la semaine prochaine, on aura un résumé sur papier. Mais dans le résumé, il n'y aura pas écrit la Kabbalah.